RMC, les grandes gueules.
C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Fred Hermel.
Monsieur Fred, bonjour.
Et aujourd'hui, le plexiglas est d'autant plus utile vu le sujet que je vais aborder. Bonjour les amis, bonjour la République, bonjour la France. Il y a aujourd'hui 12 millions d'armes aux mains de civils dans notre pays et ça ne cesse d'augmenter puisque nos compatriotes s'arment de plus en plus personnellement face à la montée de l'insécurité et sincèrement, je trouve que c'est un gros problème.
Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux.
Elle est fou, celle-là. Hein.
Bah oui, mais non, mais je voulais mettre un petit peu de douceur dans une chronique qui est un petit peu dure, sérieusement. Parce que hier, comme le rapporte le journal Le Figaro, hier lundi était présenté au ministère de l'Intérieur le SIA, le système d'information sur les armes, qui est un nouvel outil numérique qui facilite l'enregistrement pour les usagers d'armes, puisque bah, on doit déclarer en France, et qui permet un meilleur suivi bah, des fusils et autres revolvers qui circulent dans notre pays. Alors, j'ai appris que la France est l'un des pays les plus armés d'Europe et le 24e au monde. Nous avons même 19,6 armes pour 100 habitants. Alors pourquoi tant d'armes? Alors déjà, on le sait parce que nous sommes un grand pays chasseur. Ça, on le sait, qu'il y a 4 millions de Français qui ont un permis de chasse et en général, ils ont plus d'un fusil. Mais là aussi, les tireurs sportifs augmentent. Alors c'est 228 221 tireurs sportifs licenciés à la Fédération Française de Tir. Et l'on apprend que le nombre d'adhérents est en augmentation constante depuis le boom, malheureusement, depuis l'augmentation énorme qui s'est produite après les attentats de novembre 2015. En fait, c'est le moyen légal d'acheter des armes. Et de plus en plus de Français y ont recours parce qu'ils se sentent pas assez protégés par l'État, par la République, et qu'ils estiment qu'il vaut mieux avoir une arme chez soi pour se protéger face à la montée de l'insécurité. Alors il y a même une association pour le rétablissement du port d'armes citoyen qui recrute de plus en plus de sympathisants. Ben moi je vais vous dire les amis, moi ça me fait très peur. Parce que si on laisse s'installer cette culture de l'autodéfense armée dans notre pays, nous changeons de société. C'est-à-dire que c'est plus la France. C'est-à-dire nous devenons les États-Unis où qui ont une culture totalement différente. On sait très bien que là-bas, le droit à l'arme personnelle est un...
C'est dans la Constitution.
C'est un droit constitutionnel. Et on voit les dégâts...
Deuxième amendement.
On voit les dégâts que cela provoque. Je comprends que les Français... face à la recrudescence, et parce qu'il n'y a pas qu'un sentiment d'insécurité et en France. Il y a une vraie insécurité. Je comprends que les Français aient peur. C'est pourquoi assurer que l'État assure la sécurité de nos compatriotes pour justement qu'ils n'essayent pas de se protéger eux-mêmes, qu'ils fassent confiance à notre police, à notre gendarmerie, à toutes les forces de l'ordre, eh bien voyez-vous, c'est ça la France.
Le problème, c'est qu'il y a plus d'armes en circulation chez les particuliers, mais aussi plus d'armes en circulation chez les méchants.
Oui, alors je voulais préciser
chez les dealers, etc.
Bien sûr,
puisque il y a des armes militaires qui ont souvent été achetées dans les îles
du Kosovo, après la guerre des Balkans,
en fait,
etc.
Il y a, d'une manière générale, plus d'armes en circulation.
Alors,
en France.
C'est pourquoi je parlais légalement, parce que le nombre d'armes, les 12 millions d'armes, on parle de celles qui sont officiellement déclarées. Mais moi, je pense, et moi, ça me fait peur, parce que je pense que la réponse, oui, il y a une recrudescence des armes illégales aux mains des truands et des méchants, hein, on va dire ça comme ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens se protègent d'eux avec leurs propres armes.
Mais
là, c'est un changement de société.
Qui a une arme à la maison, Léa, bien sûr.
J'en ai que 3-4. Ouais. Voilà.
On a vu toutes les affaires de forcenés là qui ont tué des gendarmes, notamment, hein, puisque toutes les affaires de forcenés, ils étaient tous dans des clubs de tir.
Oui, bien sûr.
Tous, intégralement. Et je voulais juste, parce que quand j'ai vu que tu allais faire cette rubrique, je voulais juste, j'avais repris les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir, alors il y a de la délinquance qui augmente, mais par exemple sur ce qui concerne les homicides, ce qu'on appelle les homicides, c'est-à-dire le fait du risque de tuer, on est quand même passé de 1400 à 800.
Oui.
Mais je veux dire que c'est marrant parce que.
Mais les cambriolages,
réalité,
par exemple,
c'est vrai qu'il y a certainement plus de délinquance et notamment, alors il y a toujours, ça bouge sans arrêt la délinquance, parce que le vol à l'arraché diminue, puis d'un seul coup il augmente, etc. Mais c'est vrai que l'homicide volontaire, De tuer quelqu'un.
Oui, mais voilà. là on est dans la délinquance. Les gens se protègent parce qu'ils ont peur de se faire cambrioler. Non,
faut le dire parce que
et de se faire agresser chez eux.
Faut le dire. Mais c'est quand même, on est quand même pas dans une société qui est avec une augmentation des homicides volontaires.
Mais ça veut dire quelque chose.
Contrairement aux États-Unis.
Ça veut dire quelque chose de la méfiance.
Bah, c'est ça.
Bien sûr. De la peur de pas être protégé par les policiers ou les gendarmes.
T'as pas d'armes.
Non, j'ai pas d'armes.
T'as pas de gaz machin non plus sur toi.
Ça, j'en ai un peu perso.
Même pas. Mais c'est ça en fait le problème, c'est qu'il y a une telle insécurité. Il y a eu une telle politique depuis plusieurs gouvernements d'enlever de la police, d'enlever des forces de l'ordre et tout ça, que les gens se sentent de moins en moins en sécurité et forcément essayent de se protéger eux-mêmes. Et où Fred a raison, où je partage son avis, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber ou arriver au modèle américain où maintenant c'est devenu normal aux États-Unis qu'un gamin de 10 ans ou de
pour Noël on lui offre un flingue.
Ouais, voilà, on lui offre un flingue pour en fait c'est un cadeau de rentrer dans la vie d'un, ils disent comme quoi il est a young boy,
il devient adulte.
Voilà, c'est incroyable. Il faut pas surtout pas arriver à ça quoi. Moi personnellement, étant père de famille, ça me fait peur.
Voilà. On est tous d'accord là-dessus. J'avais regardé les chiffres sur les homicides sur les enfants involontaires, hein, la plupart du temps évidemment aux États-Unis. Et vous avez en 2020, vous avez 5300 enfants blessés par balle et 1200 enfants tués par balle.
Ouais, c'est fou.
Donc c'est de la folie. Et j'avais une amie qui avait fait une année d'études aux États-Unis au Texas. Et alors c'est très différent selon les endroits. Hein, vous n'avez pas les mêmes règles sur les armes. Mais elle sur son
Texas,
campus.
Texas, c'est là où c'est le plus libéral. Hein.
Ouais, mais alors elle était dans une grande ville. Elle était, je sais plus si elle était à Dallas, mais elle était dans une grande ville qui était du coup plus souple sur les armes. Il y en avait un petit peu moins. Et malgré ça, quand vous alliez dans le bureau d'un prof, eh ben ils avaient tous une petite panière à l'entrée et il y avait écrit au-dessus posez vos armes dans la panière. Et incroyable.
Quand tu vas voir ton prof pour ton mémoire pour aller chercher ta copie, tu poses ton flingue.
J'ai moi-même fait une année d'échange aux États-Unis avant que je cesse de prendre l'avion pour raisons environnementales, parce qu'il faut quand même coordonner son comportement avec ce qu'on dit. Et j'étais à Seattle, qui est une dans l'État de Washington, qui est une région pour le coup très qui est pas pro arme. Hein,
qui est pacifique. Je pense que c'est la côte pacifique et ils sont beaucoup plus pacifiques.
Ouais, ça dépend vraiment des régions. Et je me souviens, sur mon campus, il y avait une fusillade à un moment. Donc il n'y avait pas eu de victime, il y avait juste un mec qui était sorti, qui avait tiré 2-3 balles. Et c'était assez affolant parce qu'en fait, tout le monde s'était juste mis sous les tables d'un coup. Et tout le monde avait attendu. On avait attendu que quelqu'un vienne nous dire que c'était sécurisé, puis on s'était relevé. Et en fait, une société comme ça, où ça devient presque normal pour tout le monde d'avoir des tirs sur le campus en plein milieu de la journée et d'attendre l'appel de la police aux profs pour pouvoir dire c'est bon, relevez-vous des tables, c'était terrifiant. Hein. Donc effectivement, c'est un gros problème. Mais. Je sais pas si c'est pas des problèmes un petit peu plus compliqués qu'il y a pas assez de police ou il faut.
Ah mais non, mais c'est un simple constat. Et d'ailleurs le nouvel outil, le SIA, là le SIA, ce nouveau système informatique qui permet de mieux enregistrer, de mieux faire le suivi des armes. Et là aussi parce qu'il y a une augmentation. Voilà, c'est tout.
Et le film Columbine montrait quand même que
Bowling for Columbine.
Bowling for Columbine, un film extraordinaire.
Montrait que tout de même. Puisqu'au Canada, il y a aussi des armes, et que néanmoins, il n'y a jamais de tuerie de masse. Et donc, en fait, la tuerie de masse et les crimes de masse, comme il y a aux États-Unis, n'est pas seulement liée à la possession d'armes, mais liée à une psychologie générale d'un pays.
De culture de violence.
On a le même nom, au Canada, pour le même nombre d'armes, il n'y a pas du tout la même psychologie, parce que le Canada ne s'est pas construit comme les États-Unis sur l'histoire de la violence.
Non, mais ce que dit Fred, donc en fait, ils prennent un permis de chasse, ils utilisent ce biais, parce qu'en France, c'est très compliqué.
Mais qu'on soit légal. T'as deux manières d'avoir une arme légalement.
C'est compliqué.
Permis de chasse ou licencier un club de tir.
Parce que tu peux pas acheter une arme comme ça en France, c'est très réglementé. Donc en fait, c'est par ce biais-là. Mais alors, est-ce qu'on arrive à faire la distinction entre le vrai chasseur
et le bon et le mauvais chasseur?
Non, pas du bon chasseur, le vrai chasseur du faux chasseur.
Ah, mais t'as surtout un avocat qui milite aujourd'hui pour le port d'armes citoyen.
C'est sûr.
Et ça, c'est nouveau aujourd'hui en France. C'est-à-dire que je me souviens d'avocats à une époque, l'association Autodéfense, tu te souviens?
Maître Garot.
Maître Garot, c'est ça.
Ça, c'est vieux. Hein.
C'était pour la légitime défense.
Dans les années 80.
Ah, oui.
Mais qui militait effectivement pour qu'il y ait une légitime défense assouplie pour les citoyens, qu'on ait le droit de défendre nos biens, etc. C'est un vieux débat qui date des années 80. Mais là, ça revient d'actualité.
Rétablissement, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen.
Voilà. Rétablissement, 45 000
adhérents sur les réseaux sociaux.
Combien?
45 000 adhérents sur la page Facebook.
C'est pour avoir la possibilité, en fait, n'importe qui pour aller acheter une arme. Est-ce que c'est
est-ce qu'il y a une cartographie, c'est-à-dire plus dans le domaine rural que dans le domaine urbain, est-ce que par rapport
alors,
à
mais en fait c'est ça dépend parce que automatiquement à la campagne il y a plus de chasseurs bah, donc oui. Automatiquement
tu vas pas plus d'armes dans le sens où aussi à la campagne tu as beaucoup de maisons qui sont un peu isolées tout ça où il y a beaucoup moins de gendarmes ou de policiers donc beaucoup moins de sécurité.
Après il y a
là par exemple moi je sais que dans le cas où moi j'habiterais comme ça loin de d'une ville où je réfléchirais à prendre une arme parce que justement le temps que tu appelles si tu as un problème, le temps que tu appelles les trucs, au moins quelque chose, tu sais, pour faire une sorte de... Tu fais peur un peu avec une arme.
Oui, tu tires en l'air. En
voilà, ou tu comprends, ouais, mais, non, tu comprends mais ce que je veux dire.
Mais en ville, tu ne vas
pas tirer en l'air dans le arrondissement.
Parce que si tu tires en l'air et que tu blesses le voleur, c'est toi qui vas aller en taule.
Est-ce que vous faites plus de tu comprends ce que je veux dire, c'est dans le sens.
Alors justement,
si tu es à la campagne, tu as...
Étienne, Mehdi et Elia, on va voir au 32-16, puisqu'on a encore quelques minutes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui aujourd'hui ont moins confiance dans la police et vous avez pris une arme? On vous attend au 32-16 pour qu'on y en parle avec nous et Fred Hermel.
RMC jusqu'à midi.
Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Allez vous faire foutre.
Les grandes gueules.
Vous voulez pas un whisky d'abord?
En janvier 80.
Ah oui. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Léa Falco, avec Mehdi Guézard, Fred Hermel pour C'est ça la France et Étienne Liebig. Moi, ce que j'aime avec vous dans les GG, c'est qu'il suffit qu'on demande au 32-16 qu'il y ait quelqu'un qui vienne témoigner et tu peux être sûr, dans les deux minutes, on a ce témoignage. Et je posais la question de savoir s'il y a des gens qui s'étaient armés ou qui tenaient à garder une arme. Bah, Kevin est avec nous. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Bonjour Kevin. Chauffeur routier, oui. Vous avez une arme, vous l'avez acquise il y a longtemps, récemment,
oui, dites-moi. Non, ça fait 7 ans que je suis tireur.
Oui.
Et donc, c'est la FF Tir. Mm-hmm. Et donc c'est un loisir, hein. Moi j'y vais à peu près une fois par mois.
Oui.
Et voilà, donc du coup c'est pas forcément de l'autodéfense.
Oui.
Hein, d'ailleurs, moi j'ai une arme qui est faite pour le longue distance, qui est une arme en 308, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, c'est pas du tout fait pour pouvoir me défendre chez moi, par exemple.
Une carabine, quoi.
Oui, c'est une carabine, oui. C'est ça, à lunettes, avec une lunette que tu peux pas regarder, par exemple, pour tirer dans une maison. Donc c'est pas forcément pour de l'autodéfense, et j'ai pas d'autres armes. Parce que moi, le loisir, c'est de la longue distance. En fait, entre guillemets, pas de la longue distance, mais c'est du TMD, on tire à entre 3 et 500 mètres.
D'accord, c'est simple. Oui, voilà. C'est du tir.
C'est sur cible. Donc, du coup,
mais ça vous rassure de l'avoir à la maison aussi?
Pas du tout, c'est pas forcément dans cette optique-là. C'est pas forcément
dans cette optique-là. Mais si quelqu'un rentre, je ne vous souhaite pas, mais si quelqu'un rentre par effraction chez vous la nuit et que vous avez cette arme pas loin, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous feriez, pardon?
Alors, on ne peut pas forcément savoir ce qu'on fait à l'avance, mais je ne pense pas que j'irai vers cette arme. Parce que en tant que tireur sportif, on connaît très bien tout ce qui est loi par rapport à ça. Et on sait très bien que si on sort ça, c'est nous qui allons être emmerdés derrière.
Exactement.
Voilà.
Monsieur, c'est ça le problème.
Je peux vous poser une question.
Il faut pouvoir la sortir, mais il faut pouvoir s'en servir parce qu'on ne sait pas ce qu'on a en face.
Ben oui.
Et donc, faut être sûr de faire feu. Et entre un gendarme qui est fait pour et nous qui allons la sortir au départ en dissuasif, mais il faut pouvoir être capable de s'en servir. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions et c'est pas forcément pour ça que les gens s'arment.
Moi je voulais vous poser une question parce qu'il y a eu un débat par exemple sur le fait de quand on voit le nombre de suicides de policiers avec l'arme de service.
Oui.
Et c'est absolument dramatique, gendarmes et policiers avec l'arme de service. Okay. Et en fait quand on a des moments de dépression, des moments de goût du suicide, il faut et qu'on ne sait pas comment on va se suicider, se jeter sous le train, etc. C'est extrêmement complexe. Et oui. C'est vrai que quand on a une arme sous la main, on passe beaucoup plus rapidement à l'acte, parce que finalement, se tirer une balle, c'est un truc assez rapide, etc. Et ça a été mis en cause dans cette question du suicide.
Vous n'avez pas envie de vous suicider.
Il faut savoir que pour garder la licence, on passe quand même devant un médecin tous les ans.
Voilà.
Hein, pour avoir la licence, c'est structuré quand même.
Ouais,
en plus, faut l'avouer, il y a certains médecins qui vont vous la signer comme ça, mais il y a des médecins qui sont très réticents à ça parce qu'ils s'engagent quand même derrière. Et puis j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui veut se suicider se suicidera d'une manière ou d'une autre.
Mais Kevin, vous habitez dans l'Eure-et-Loire. Est-ce qu'autour de vous, dans votre département, vous voyez quand même des gens qui achètent des armes en disant ça me tranquillise ou pas?
Non, pas forcément. Alors, on peut pas vous le cacher. Il y en a forcément quelques-uns qui viennent. Quand on est au stand de tir et qu'on voit un mec tous les 6 mois, forcément, voilà. Mais en plus, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément dans les tireurs sportifs. Et il y a, vous savez, il y a énormément de gendarmes et de policiers, de plus en plus, En fait, contrairement à avant, en fait, beaucoup de flics, comme on peut dire, vont s'entraîner à titre perso, parce que déjà, il y en a beaucoup qui sont intéressés par leurs armes, entre guillemets, et c'est surtout qu'ils tirent pas beaucoup dans l'année.
Ils ont pas beaucoup de formation,
Voilà.
Mais Kevin, votre arme, en fait, c'est une arme de sniper.
Oui, en gros, oui, c'est un peu ça.
Vous n'êtes pas survivaliste.
Pour résumer, c'est ça. Non, pas du tout.
D'accord. Merci de ce témoignage, Kevin. Merci d'avoir été avec nous.
Si je peux me permettre juste, parce que souvent l'exemple des États-Unis est utilisé, mais par contre déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, chaque État a ses lois, et souvent, si vous regardez les chiffres où c'est justement le plus d'armes et surtout de meurtres avec ces armes-là, sont dans des gun-free zones. C'est-à-dire que les armes sont interdites et donc les meurtres, entre guillemets, sont pas forcément faits par des détenteurs légaux. Comme il peut se passer en France. Parce qu'en France, il y a énormément d'armes qui circulent qui sont pas déclarées.
Bien sûr.
Ah oui, on en a parlé tout à l'heure.
Il y a très peu de gens qui meurent de coups de fusil en France. Mais à part les accidents de chasse, il y a très peu de gens. Quand on fait le compte, il y a eu extraordinairement peu de gens.
On peut prendre l'exemple de la Suisse, qui est un pays hyper armé. Et il n'y a pas forcément de débat
ce que veut dire Kevin, c'est
Kevin.
C'est contrôlé.
Bien sûr.
C'est effectivement Kevin, on le voit bien, avec une visite, et puis lui, c'est une passion du tir. Il n'y a pas de problème. Il faut peut-être plus s'inquiéter de toutes ces armes en circulation, sans contrôle.
Je fais confiance à Kevin, mais les chiffres de la Fédération française de tir sont là. Depuis les attentats de novembre 2015, ça a grimpé. Beaucoup de gens se sont inscrits pour avoir légalement une arme chez eux.
Voilà, mais c'est humain.
Oui,
franchement, c'est humain.
Merci, monsieur Fred Hermel. On se retrouve demain avec Marianne Soubré, notre avocate, Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire.
Il viendra avec son fusil, d'ailleurs.
Nous serons non, avec sa fourche.
Sinon, il serait venu.
Nous serons avec Thomas Porcher, notre prof d'économie. Tiens, Naïs, tu peux te lever ? Parce qu'on a notre productrice qui nous accompagne toujours pendant les 10 dernières minutes de l'émission.
Elle aime bien se cacher là, ça ne sait pas pourquoi.
Elle aime bien, c'est son refuge.
Elle a piqué le bonnet du commandant Cousteau.
Au revoir, voilà.